Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fatman à la technique. Voilà, c'est parti pour ce mardi 7 juin 2022. Comme Louise Thibault n'était pas là hier pour nous parler de nutrition, elle est là aujourd'hui avec nous. En première partie d'émission, juste après la, voilà, après avoir mis le tapis, après avoir mis le décor, planté le décor de l'émission. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Gaëtan Hugo, qui est cofondateur de Split Home Energy. Comment valoriser la chaleur perdue par les serveurs informatiques? Si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. C'est en deuxième partie d'émission à 18h30 avec notre invité Gaëtan Hugo. Voilà, il va nous parler de tout ça. C'est diplômé de la Polytechnique avec son partenaire d'affaires Adrien Blanc. Adrien ne pourra pas être là, mais c'est Gaëtan qui va nous parler de ça. Alors tout de suite, pour ne pas perdre de temps, Louise est déjà au bout du fil. On va parler de nutrition, dormir comme un bébé grâce au lait chaud. Alors,
point d'interrogation.
Voilà, avec un point d'interrogation, grâce au lait chaud. Est-ce qu'on peut dormir comme un bébé? Voilà, là, c'est bien posé la question maintenant. Bonjour Louise.
Bonjour Fulgence, comment vas-tu?
Je vais bien, merci. J'espère que tu vas de même.
Très très bien, oui. Je suis en grande forme pour vous parler du lait et d'autres choses aussi.
Ouais. Là, je te dis tout de suite, moi, je ne supporte pas le lait de vache.
Bon. Ça peut être du lait d'amande, ça peut être du lait de soja. Ça peut être...
Oui, c'est ce que je prends, le lait de soja.
Ouais. Mmh. Avant de faire dodo ou
Ah non, ça c'est le matin au petit déjeuner.
Ah bon, ok, alors c'est un peu tôt pour... Voilà. c'est ça, j'ai choisi ce sujet aujourd'hui parce que on entend beaucoup parler. Je lisais dernièrement dans un magazine féminin,
oui,
conseils pour favoriser le sommeil, vous êtes ménopausée et tout, buvez un bon verre de lait chaud pour dormir comme un bébé.
Okay.
Alors, on entend ça, et puis certains disent que c'est vrai, certains disent que non. Eh bien, je vais tenter de faire la lumière sur ça.
Okay.
Premièrement, on aime bien entendre ça, hein, les chauds, dormir comme un bébé, ça rassure, ça réveille l'enfant en nous, ça nous fait penser à notre maman qui nous nourrissait, donc, et qui ne rêve pas de dormir comme un bébé. Bon, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, hein? Boire du lait au coucher vous aidera-t-il véritablement à dormir? Alors, ma réponse à cette question, c'est peut-être.
Okay.
Pourquoi peut-être? Ben, c'est parce que les aliments comme le lait, ils contiennent des protéines, et dans les protéines, on retrouve un composé ou une substance qu'on appelle le tryptophane. Ça vous dit quelque chose, le tryptophane? Ça
te dit quelque vaguement, Letna, il faut que tu nous réexpliques encore.
Bon, non, alors, je répète.
Oui, le tryptophane.
Alors, le tryptophane, ben, ça fait partie des protéines. Et effectivement, le tryptophane pourrait favoriser le sommeil.
Oui.
Comment ça? Ben, c'est parce que le tryptophane, il est utilisé pour favoriser la sérotonine et la mélatonine. Alors, deux noms en ine. Et ces deux noms en ine, ben, ce sont des substances qui favorisent véritablement le sommeil.
Okay.
Mais, parce qu'il y a un mais, le lait en tant que tel ne peut pas favoriser le sommeil parce qu'il n'y a pas assez de tryptophane dedans.
Ah.
Alors, ça prend quand même une certaine quantité de tryptophane pour fabriquer la sérotonine et la mélatonine, okay, et le lait n'en a pas assez.
La quantité contenue dans le lait n'est pas suffisante.
Elle est minime.
Voilà, d'accord.
Donc, il est peu probable que, ben, en consommant du lait, eh bien, on peut provoquer efficacement le sommeil. En revanche,
oui,
lait contient aussi des sucres. Il contient du lactose, qui est le sucre du lait.
Oui.
Et ben, les sucres pourraient éventuellement augmenter la disponibilité du tryptophane qui va rentrer dans le cerveau et qui pourrait avoir un effet sédatif.
Ah, donc il y a un petit plus là.
Il y a un petit plus. Par contre, la recherche n'a pas encore déterminé la quantité de sucre nécessaire pour obtenir l'effet soporifique du lait, du tryptophane, du lait.
Ouais.
Bon. Il y a aussi une autre piste de réponse que j'ai trouvée, c'est que le lait, ça contient plusieurs sortes de protéines. Il y en a une qui s'appelle l'alpha-lactalbumine. alpha-lactalbumine, qui est une protéine qui contient pas mal de tryptophane. Donc, on pourrait dire, grâce à l'alpha-lactalbumine, on a plus de tryptophane, ça pourrait améliorer le sommeil, sauf que ce que la recherche scientifique a montré, c'est que cette protéine-là, on l'a testée comme supplément de repas. Donc, on n'a pas testé le lait comme tel. Donc, ça demeure quand même nébuleux, là, que cette question de lait qui favorise le sommeil. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous y croyez vraiment que votre lait chaud au dodo va favoriser le sommeil, ben il se pourrait qu'il y ait quand même un petit effet placebo qui fasse que ben, si ça fait partie de votre routine, eh ben ça vous ferait dormir. Donc il y a l'effet psychologique, il y a l'effet placebo qui n'est pas à négliger du tout, du tout.
Ah voilà, je comprends. Voilà, effectivement.
Puis boire du lait, la nutritionniste, la personne qui est docteur en nutrition, qui vous parle, vous dit que ça peut être une bonne façon de consommer le minimum de 2 portions par jour de lait.
Par jour?
Oui, chaque adulte, et puis les enfants et les femmes enceintes, c'est encore plus que 2 portions, devraient idéalement consommer 2 portions de lait et substituts. Les substituts, c'est par exemple le yogourt, les produits de lait, le fromage aussi contient quand même des bonnes substances laitières. Donc,
OK, d'accord.
Ça pourrait être aussi une bonne façon de rencontrer vos besoins. Oui. Et aussi, le lait, comme je l'ai déjà mentionné, c'est un bon breuvage pour la collation ou le goûter. Alors, parlant de goûter, je vous en ai parlé la semaine dernière et puis j'en ai parlé avant. Alors que je cherchais des livres sur des goûters, je suis tombée sur des petits livres très rigolos qui proposent une recette par livre de goûter. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, il s'intitule « Sucrabolique ». Alors, pourquoi « Sucrabolique » c'est parce que c'est un livre, moi, que je recommanderais pour tout le monde, mais aussi à lire si vous avez de jeunes enfants. Parce qu'il s'agit de l'histoire de Mimi Labriski, qui est une petite fille qui a des pouvoirs magiques et qui a pour mission de déjouer le plan S. Le plan S pour sucre, alors qui va anéantir le monde si nous ingérons trop de sucre. Alors, Mimi Labriski, sucrabolique, elle vole sur une cuillère de bois.
Elle vole sur une cuillère de bois?
Oui, elle ne vole pas sur n'importe quoi. Donc, moi, j'ai lu ça en une soirée, sucrabolique, j'ai trouvé ça très mignon. Très rigolo, il y a des messages dans ça, des messages de « bon, je ne veux pas consommer trop de sucre, surtout les sucres transformés ». Et elle propose, Mimi Labriski, une recette de collation. Alors, tenez-vous bien, c'est une recette de crotte de singe, ni plus ni moins. Alors, les crottes de singe, on les cuisine avec un peu de purée de date, un peu de beurre d'arachide, un peu de riz soufflé, la noix de coco si vous voulez, et des fruits séchés, par exemple les canneberges.
Oui, les crottes de singe, il faut les trouver, hein.
Ah ben, je voulais fabriquer. soi-même. Alors, c'est une recette très facile. Moi, je trouve que pour les enfants, c'est bien, là, de pouvoir cuisiner ces crottes de singe. Et puis, ça fait une belle collation.
Ah bon?
Parce que quand même, il y a des nutriments, il y a du beurre d'arachide, il y a des dattes, il y a du riz soufflé, et puis des fruits séchés. Donc, pourquoi pas? Alors, c'est ça, donc, un petit coup de cœur que j'ai eu, et puis c'est publié aux éditions Petit Homme, donc c'est un tout petit livre, et puis moi je trouve que c'est original, ça ne parle pas que de nutrition, mais ça vous raconte une histoire, et puis moi je suis vraiment rentrée dans cette histoire.
C'est pour les tout petits.
C'est bien, c'est joliment illustré aussi.
Oui, pour les tout petits et les toutes petites.
Oui, elle est... Et si j'ai encore un peu de temps, j'aimerais vous parler d'un autre livre qui m'a fascinée et qui, cette fois, est pour tout le monde, et qui vous inspirer dans vos goûters. Parce que si vous aimez les fruits, eh bien, vous allez apprendre énormément sur les fruits en lisant le livre de l'excellent Bertrand Dumont.
Est-ce qu'il y a des gens, Louise, est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les fruits sur cette terre?
Ça se peut. Ou qui n'aiment pas certains fruits.
Oui, certains fruits, mais les fruits, on ne peut pas dire.
Mais il y en a beaucoup des fruits. Hein. Il n'y a pas que les pommes, les bananes, les oranges.
Il y a des millions de fruits sur cette terre.
Ah, ben, je ne sais pas s'il y en a des millions, mais je dirais qu'il y en a peut-être des milliers.
Des millions, oui, oui, il y a des millions.
Il y en a beaucoup. Mmh. On a beaucoup de choix.
Oui.
Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur nous, au Québec, au Canada, en Amérique, qui ne souffrons pas d'insécurité alimentaire. On va au supermarché, on a plein de choix, alors que dans certains pays, surtout par les temps qui courent, il y a beaucoup d'insécurité alimentaire.
Donc, ouais,
voilà,
ouais.
Alors il faut l'apprécier. Alors pour en revenir à mon livre publié chez les éditions Multimonde en 2022, le livre Sucrabolique aussi a été publié. Non, Sucrabolique, ça a été publié un peu avant, je pense, ça date de 2019. Il est toujours disponible dans les librairies et puis dans les
bibliothèques. C'est pas vieux.
Alors, Étonnante histoire de fruits, c'est un livre à lire. C'est extrêmement poussé comme livre. On parle pas seulement de des fruits, de la valeur nutritive, mais on parle vraiment de l'origine des fruits, de l'origine, de l'étymologie des noms des fruits. On explique ce qu'est un fruit, l'origine du fruit défendu. On explique aussi pourquoi on dit souvent, je sais pas si tu as entendu cette expression, la terre nourricière.
Oui, oui, oui.
Alors, il faut lire le livre, je ne vous le dirai pas, je vous laisse lire toute l'histoire derrière la terre nourricière. On parle, on dit que les plantes à fleurs, à fruits, sont apparues il y a quelques 200 millions d'années.
200 millions d'années, ok, d'accord.
Oui,
je sais pas.
Les plantes à fruits, elles ont eu une importance capitale sur l'évolution de notre espèce.
Wow.
Alors, Monsieur Dumont, je l'appelle vraiment Monsieur Dumont, je trouve que c'est un grand monsieur de s'être donné d'avoir pris tout ce temps pour documenter le livre qu'il a écrit, Étonnante histoire de fruits. Il vous parle des fruits, mais il vous parle aussi, vous allez peut-être le découvrir certains, moi je le savais, que les noix sont en fait des fruits. Ce sont des fruits à coque.
Mais les noix sont considérées comme des fruits à coque.
Ouais, des fruits à coque.
Okay.
Et vous avez de très belles histoires sur les noix. Vous avez aussi, je vous ai dit, vous avez la symbolique des fruits, mais vous avez aussi la signification de plusieurs expressions. On dit le fruit défendu, ça vient d'où, ça, le fruit défendu? Est-ce qu'il est vraiment défendu? Mmh. Et c'est quoi ce fruit-là? Je vous le laisse découvrir en lisant ce livre. Quand on dit, par exemple, mi-fig, mi-raisin, ça veut dire quoi, ça? Il y a toute une histoire derrière ça.
Ça vient de là.
Pardon?
Ça vient de là, mi-fig, mi-raisin, voilà, bon, ok.
Ah ben, il faut lire, parce qu'il y a quoi, il y a tout un paragraphe sur mi-fig, mi-raisin. Alors, il faut le lire, moi je l'ai découvert.
Le nom encore de l'auteur, s'il te plaît.
Alors, c'est Bertrand Dumont.
Oui.
Et puis les Torticulteurs et les éditions Multimonde, une édition québécoise, a publié ce livre étonnant. Ce livre étonnant, étonnant d'histoire de fruits. Moi, que j'ai lu, normalement, j'essaie de lire les livres en diagonale au début, mais là, je peux pas m'arrêter. J'ai lu de couvert
et
à l'autre.
Et surtout que c'est de la part d'un horticulteur.
Bah, en plus.
Ouais, c'est qui connaît mieux, qui connaît mieux
cet horticulteur.
Voilà, qui connaît mieux ce milieu que ces gens.
C'est ça, oui. Et puis il va vous parler de plusieurs petits fruits qui sont moins connus, mais dont on peut acheter des produits, par exemple la camerise, la mélange, le sureau. Moi, j'ai déjà acheté de la confiture de sureau, c'est délicieux. Et puis c'est québécois.
Merci beaucoup, Louise.
Donc, il faut, c'est ça, quand vous allez lire sous la tonnelle cet été, adoptez ce livre et puis lisez Sucrabolique à vos enfants, vos petits-enfants. Vous allez vous amuser et puis tout le monde va en profiter.
Chacun aura pour son compte.
Exactement.
Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie.
Allez,
se retrouve lundi prochain.
Lundi prochain, bon reste de semaine à toi. À bientôt.
Merci, à toi aussi. Au revoir.
Au revoir. Dr. Saxlove, Let's Stay Together. Voilà, avant de passer à la prochaine, à la pause publicitaire, à la fin de la première partie de l'émission, j'ai quelques sujets à aborder avant de recevoir mon invité. Juste après la petite pause publicitaire, il y a trois événements pour clore les 100 ans du Macor, du musée Macor. Oui, photo fournie par le musée Macor, la forêt urbaine du musée du Macor, ici. Voilà. Et le musée Macor qui met fin cet été aux festivités de son centenaire avec trois événements. Le retour de sa forêt urbaine, bien sûr, la célébration du mois de l'histoire autochtone et l'exposition de photos mangées locales jusqu'au 9 octobre 2022, bien sûr. La forêt urbaine aménagée rue Victoria sur le flanc ouest du musée revient pour une 12e édition avec son décor ludique et une programmation faite de moments musicaux. De présentation de trucs pour faire voilà, un potager en milieu, en plein milieu urbain, jardin de plantes autochtones et autres. Et puis en juin, on est déjà en juin, là, dans ce courant de mois de juin, aujourd'hui c'est le 7, il y a l'institution qui salue le mois national de l'histoire autochtone avec projection, conférences et un spectacle de cirque. Enfin, du 17 juin au 7 octobre, au 16 octobre, voyez l'exposition de 24 photographies en grand format sur le thème « Manger local ». Celles-ci seront installées sur l'avenue McGill College. Allez-y, ne ratez pas ça. Voilà, ça c'est important. Ne dites pas que j'ai pas le temps. C'est des trucs qui sont exposés en ville, en pleine rue, là, sur l'avenue McGill College, qui est là au centre-ville. Vous ne pouvez pas rater ça. Ce n'est pas question de dire « Non, je pourrais pas arriver là ». Alors, je reviens sur le Festival Transamérique pour la 16e édition, alors qui continue cette année, qui a fait un gros coup d'œil, un grand coup d'œil aux artistes afro-descendants, et puis bon, ou bien directement qui viennent du continent, les figures phares du continent africain. Je ne sais pas si c'est une première, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. C'est ce qui fait que la co-directrice de artistique qui était venu parler de ça ici. J'ai reçu quelques artistes qui prennent part d'ailleurs à cette 16e édition. Eh oui. Alors, moi, le spectacle qui me fascine, c'est ce qu'il m'appelle Mohamed Ali, créé par le Théâtre de la Sentinelle, la première compagnie québécoise et un pour mandat d'offrir des rôles de premier plan aux artistes racisés. Ça, c'est très important. Et parce que tous les artistes, tous les comédiens qui seront sur scène, c'est tous des artistes racisés. On a reçu hier les dentistes qui est venu parler de ça. Il y a Fayol Junior Jean, il y a Angel Major, il y a Maxime Montperros, il y a Vidmir Normil, il y a Martin David Peters, Rodley Pitt, Frank Silvers et Tatiana Zenga Botao qui est derrière aussi le Théâtre de la Sentinelle avec la complicité de son collègue et ami les dentistes. Voilà, c'est une scène vraiment. On dit merci à quelqu'un qui est caché derrière tout ça, Dieu donné, voilà. Il venait de l'autre côté là-bas de l'Atlantique, en France, il vit à Paris. Alors, ça continue, ça c'est aujourd'hui le 7, le 8 et puis le 9. Demain, les artistes, les comédiens pourront avoir une conversation avec le public après le spectacle. C'est 1h30, 1h30. Voilà, à 19h chaque fois ça se passe. Et puis bon, ceux qui aimeraient en savoir plus, allez-y sur le site du Festival Transamérique. Voilà, et puis vous allez avoir toute la programmation là-bas. Tranquille quoi, voilà.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, je vais parler un peu de technologie. Il y a l'Union européenne qui conclut un accord sur un chargeur universel. Apple impacté, voilà, parce que les gens se disent, mais pourquoi au fait il n'y a pas de chargeur universel? Pourquoi à chaque fois que je change de téléphone ou bien... voilà, ça s'est tombé. Ça s'est fait aujourd'hui en Europe, à Bruxelles. Donc, Apple devra changer d'ici 2024. Voilà, les ports de ces appareils iPhone vendus en Europe, seulement en Europe. Je pense bien que peut-être que ça va tomber dans les oreilles des dirigeants nord-américains ou bien du reste du monde qui vont les suivre. Il y a le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne s'étant accordés ce mardi sur l'adoption d'un chargeur universel USB-C pour tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo. Voilà, personne ne peut échapper à ça. Voilà. Sinon quoi, il y a de lourdes contraventions. Cet accord intervient après que les entreprises ont échoué à s'entendre sur une solution commune d'ailleurs. Et puis, pour cette histoire de chargeur universel, ça date, c'est depuis plus de 10 ans que l'Union européenne voulait que les compagnies s'entendent, elles, mais elles n'ont pas pu le faire. Maintenant, on leur impose ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. À partir de... changer, devra changer d'ici 2024. À partir de 2024, Apple n'aura plus le choix d'utiliser le Universal USB-C. Voilà. Donc, le port USB de type C deviendra le port de recharge commun à tous les téléphones mobiles, les tablettes et les appareils photo. Les utilisateurs d'iPhone et puis de smartphones Android aussi se plaignent depuis longtemps de devoir utiliser des chargeurs différents pour leurs appareils. Les premiers se chargent à l'aide d'un port Lightning, tandis que les appareils Android sont alimentés par le USB-C. Donc, c'est ça qui va être standardisé. Voilà, la moitié des chargeurs vendus avec les téléphones portables en 2018 étaient dotés d'un port USB micro B, 29% d'un port USB de type C et 21% d'un port Lightning. Voilà, c'est la Commission européenne dit non, ça peut pas, l'Union européenne dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tout soit standard. J'arrive quelque part, je peux prendre le chargeur de mon collègue ou bien de mon ami ou bien de mon voisin pour charger mon téléphone. Alors jusqu'à présent c'est, oh non on n'a pas le même chargeur, non non ça marche pas, ça peut pas aller comme ça, non c'est pas où on en est. Donc l'accord qui a été conclu ce matin va permettre aux consommateurs de réaliser des économies d'environ 250 millions d'euros à peu près, je sais pas combien ça fait, 275 ou bien 300 millions de dollars canadiens, quelque chose comme ça, à peu près, j'ai pas de... Voilà, a déclaré d'ailleurs le commissaire responsable du marché intérieur de l'Union européenne, Thierry Breton, dans un communiqué. Il permettra également de nouvelles technologies telles que la recharge sans fil, qui vient aussi d'émerger et de se développer sans laisser l'innovation devenir source de fragmentation du marché et de désagréments pour les consommateurs. Alors, si vous allez en Europe prochainement, on n'avait pas à vous casser la tête pour recharger votre appareil. Je pense que les décideurs d'Amérique du Nord ou bien d'ailleurs dans le monde aussi vont les suivre. Ça permettra à tous et à nous les consommateurs d'avoir ce standard de chargeur pour ne pas trop à se couper les cheveux en quatre comme on dit. Ouais. Et puis bon ben voilà, sur ce, on fait la petite pause publicitaire. Et puis on vous revient juste après la petite pause avec mon invité qui est déjà là, qui a été très très là depuis un bon moment. Gaëtan Hugo, cofondateur de Split Home Energy, pour nous parler de comment valoriser la chaleur perdue par les serveurs informatiques. Ne vous posez pas trop de questions, il est mieux placé pour nous donner tous les détails. Allez, allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà avec moi en studio. Je suis très content de l'avoir. Gaëtan Hugo avec son partenaire n'est pas avec nous. Peut-être que la prochaine fois, ils vont venir à deux.
Bonjour, bonjour. Merci, merci de me recevoir. Peut-être la prochaine fois, on pourra venir à deux en effet.
Ouais, bonjour Gaëtan. Alors, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment valoriser la chaleur perdue par les serveurs informatiques? Je sais, vous avez eu ça en tête avant d'aller à Polytechnique ou bien c'est quand vous êtes allé là-bas que ça a commencé?
Eh bien, c'est pendant, en fait. Ouais. Pendant. Et on a commencé à mettre ça en place en sortant. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a vraiment créé cette start-up pour minimiser le gaspillage d'énergie.
Oui.
En fait, il faut savoir qu'au Québec et un petit peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'énergie qui est produite, mais il y a aussi surtout beaucoup d'énergie qui est gaspillée, et surtout dans le domaine informatique. Si on prend en fait, nous, on se focalise sur l'intelligence artificielle.
Oui.
Donc l'intelligence artificielle, la mission de l'intelligence artificielle, elle est vraiment, elle est belle. Elle permet de faire des découvertes dans les domaines scientifiques. Mmh. Elle permet aussi de continuer la prospérité de l'humanité.
Oui.
Par contre, elle consomme énormément d'énergie et dégage énormément de chaleur, justement, parce qu'elle utilise beaucoup de serveurs. Oui. En ce moment, ces serveurs, ils sont dans des centres de données.
Oui.
Et ces centres de données utilisent encore plus d'énergie pour refroidir ces serveurs.
Je sais de quoi vous parlez.
Pour refroidir les serveurs, exactement.
Les salles de serveurs dans les entreprises, c'est pareil.
Exactement, oui.
Avec ça, le bruit de fond
d'ailleurs. Ça fait beaucoup de bruit, ça souffle, voilà. Beaucoup de ventilation, beaucoup de climatisation. Mmh. Et donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de valoriser la chaleur qui est dégagée par ces serveurs informatiques qui font de l'intelligence artificielle pour chauffer de l'eau avec.
Comment ça se passe?
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se passe des centres de données, parce qu'on fait du calcul distribué, donc on n'a plus besoin de centres de données. Mmh. On prend des serveurs, on les met dans des boîtes, on appelle ça des chauffe-eau, et ensuite, on les installe dans
Je me fais mon image.
Ouais. Ensuite,
je me fais mon image, je vous laisse continuer.
On les installe dans des spas ou dans des piscines publiques pour chauffer l'eau des spas ou des piscines publiques.
Ok.
Et donc, ça permet en fait... D'une part, que la chaleur qui est produite par ces serveurs ne soit plus gaspillée.
Oui.
Donc, on la rend utile à l'homme. Mais en plus, on n'a plus besoin d'énergie pour refroidir les ordinateurs.
Ça donne... Ok.
Et en plus, on économise sur l'énergie qu'on a nécessaire pour chauffer l'eau des spas et des piscines.
La voix que vous entendez, celle de Gaëtan Hugo. Il est diplômé étudiant en génie mécanique de Polytechnique Montréal. Et avec son complice, Adrien Blanc, qui n'est pas avec nous en studio... Comme une des solutions innovantes qui répond aux enjeux de chauffage des bâtiments. Quand je lis ça, je me dis, mais où est-ce qu'il nous emmène? Où est-ce que vous nous emmenez, Gaëtan?
Ah bah écoutez, on vous emmène vers le chemin de la sobriété énergétique.
Oui, ouais. Ah, c'est très bien dit. Ça, c'est... Non, parce que là, vraiment, c'est... tu te dis, mais au fait, que... mais qu'est-ce que la modélisation numérique et thermodynamique, là, est-ce que... Est-ce possible de vulgariser un peu ces termes pour le bénéfice de nos auditeurs?
Oui, c'est ça. Donc, en fait, donc là, vous faites référence un petit peu à l'article qui est sorti sur le Polymag, magazine très de Polytechnique.
Très bon article d'ailleurs, très bien écrit.
Donc, en fait, rapidement, la modélisation numérique, en fait, ça permet d'économiser de l'argent. C'est-à-dire que à la place de créer une maquette, concevoir une maquette, fabriquer une maquette, et puis ensuite faire des mesures sur cette maquette, on va la modéliser, donc la construire en quelque sorte de façon numérique sur un ordinateur.
Oui.
Et ensuite, grâce à des équations, on va être capable de modéliser les échanges de chaleur qui se passent entre les différents corps. Et en fait, ça permet de gagner du temps et de l'argent. Voilà. On fait de la modélisation avant de faire un prototype. Et ça se fait dans beaucoup d'industries, surtout dans l'aérospatiale,
oui,
etc.
Oui, oui. Est-ce que vous, qu'est-ce qui vous a attiré à Polytechnique?
Qu'est-ce qui m'a attiré à la Polytechnique?
Qu'est-ce qui vous a attiré, Gaëtan? Qu'est-ce qui vous a attiré à Polytechnique? Vous étiez déjà avant d'aller là, avant le bac, tout ça, et après le petit tour du monde là, sabbatique, ça fait partie de votre CV, ce que j'ai lu.
Alors, en fait, ce qui se passe...
Vous étiez toujours bricoleur en tant que garçon?
J'ai toujours été bricoleur. J'ai eu la chance de grandir à la campagne. Donc, j'ai toujours été bricoleur, en effet. Mm-hmm. En fait, il faut savoir que moi, à la base, je suis plus dans l'aérospatial. J'ai plus un profil aérospatial.
C'est ça. Ouais, on va toucher à ça aussi.
Exactement. Mm-hmm. J'ai fait des études à Toulouse.
Oui.
Donc, en technique aérospatiale. Mm-hmm. Voilà. C'est un petit peu la ville. Mm-hmm. Ensuite, je suis venu à Polytechnique Montréal. Et puis, j'ai continué aussi un peu plus dans l'aérospatial. En fait, il faut savoir que je pilote des avions, j'ai lancé une fusée expérimentale, fabriqué un CubeSat.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il n'est pas normal, ce garçon. Il touche à tout, quoi.
C'est ça. Fabriqué un CubeSat. Et j'ai même assemblé des moteurs d'avion à Longueuil.
Ici?
Ouais.
Oh, ouais, j'ai vu.
Mais en fait, c'est ça. Quand j'ai terminé mes études en août 2021 à Polytechnique Montréal, et que j'ai vu toute l'énergie qui était gaspillée, j'ai eu accès à des données comme ça, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, et c'est pour ça qu'on a créé Splitome Energy. Mmh. Je suis allé chercher Adrien pour qu'on crée ça ensemble,
oui.
Et aujourd'hui, on a même un troisième associé qui est Régis Leray.
Oui.
Donc l'équipe s'agrandit petit à petit.
Lui s'occupe du domaine commercial.
Exactement, commercial, et puis après, il a aussi un profil développement informatique, qui viendra un peu plus tard. Ouais.
Oui. Alors, comment vos pères ont réagi, vos enseignants, vos profs, là, comment ils ont réagi quand vous et Adrien, vous avez montré ce projet-là? Comment ils ont réagi, vos profs?
Ah ben ça, c'est une très bonne question. Mais en général, ils sont assez enclins à nous aider.
Oui.
D'ailleurs, en ce moment même, pour le développement du banc d'essai,
oui,
ils nous aident. On est aidés, accompagnés par des professeurs de Polytechnique Montréal. On est aussi dans l'incubateur de Polytechnique Montréal, dans le parcours en technologie propre.
Ça, j'adore.
Voilà.
Technologie propre. C'est ça, j'aime ça. La tech, le parcours de technologie. Oui. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur le gaspillage énergétique au Québec?
Oui, bien sûr. Donc, au Québec, il faut savoir que 53% de toute l'énergie qui est produite est gaspillée.
53%.
Donc, plus...
Qui gaspille? C'est nous, consommateurs, qui gaspillons ou
bien... C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est dans le transport, c'est dans les bâtiments mal isolés, c'est dans les...
Ok.
C'est beaucoup de choses. C'est dans les... Bah, par exemple, là, nous, on s'occupe des centres de données. C'est dans les centres de données. La chaleur qui est dégagée par les serveurs informatiques, elle n'est pas utilisée. Donc, c'est du gaspillage énergétique.
Oui.
Et donc, avec ces 53% d'énergie gaspillée, on pourrait alimenter 11 millions de foyers. Et quand on réfléchit à ça, on se dit que il faut vraiment...
Ça, c'est plus que la population du,
exactement,
du Québec.
Exactement, c'est plus que la population du Québec.
Ouais.
Et en fait, on se dit que en fait, c'est très important plutôt de réduire notre consommation
oui.
en faisant des travaux d'efficacité énergétique
oui.
plutôt que de chercher à produire plus. Parce qu'on a aussi des chiffres d'Hydro-Québec qui seront à court de puissance dès 2026 s'ils n'achètent pas de l'électricité d'autre part ou s'ils ne font pas de nouveaux barrages ou de nouveaux champs d'éoliennes. Ouais.
Ok.
C'est dans le rapport d'Hydro-Québec.
D'ici 2000 combien ?
2026. Ils pourront pas répondre à la demande de puissance en hiver.
Là, on est mal barré.
On est mal barré.
Bon, dites-nous. Dites-nous là. 2026, c'est pas dans 10 ans là.
Ah non, ça arrive très vite.
C'est bientôt là.
Oui. Ça arrive très vite et c'est pour ça que c'est assez important de faire des efforts. Mais c'est ça. Le domaine de l'efficacité énergétique, c'est vraiment très large.
Oui.
Nous, on se concentre sur les serveurs d'intelligence artificielle.
Oui.
On récupère cette chaleur pour chauffer de l'eau avec.
Oui.
Voilà.
Alors, quelle est la solution de Splitform Energy qui répond à un double objectif d'ailleurs. D'une part, valoriser la chaleur générée par les serveurs informatiques pour chauffer de l'eau gratuitement pour les clients. Et d'autre part, éliminer la climatisation qui sert à refroidir les serveurs. Cela permet aussi de réduire la consommation d'électricité au niveau global. Ce qui évite d'avoir recours à de l'électricité produite avec l'énergie fossile. Ça, c'est, vous voyez, quand je lis des choses comme ça, quand je vous écoute, je me dis, mais au fait, vous participez aussi à cette lutte de changement climatique. C'est une manière à vous, modeste ou pas, mais j'ai dit, mais c'est ce que je vous ai dit hors honte, j'ai dit, la génération nouvelle ne perd pas le temps. Quand elle a une idée, tout de suite, elle se lance là-dedans.
Exactement, exactement.
Voilà. Donnez-nous. Oui.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, Splitform Energy, vraiment, on participe en fait à la transition écologique.
C'est ça.
Parce que on réduit.
Ça, je voulais entendre votre bouche.
Exactement. On réduit la consommation d'énergie.
Mm-hmm.
Donc que ça soit du gaz ou de l'électricité.
Oui.
Parce que en général, les spas et les piscines sont chauffés au gaz. Donc si on vient chauffer ces spas et ces piscines ou eau chaude de bâtiment avec de l'énergie qu'on utilise. On consomme du gaz en moins
oui.
et on utilise de l'électricité en moins sur la globalité de la grille électrique.
Oui.
Et donc, ça permet d'avoir plus d'électricité
oui.
pour, par exemple, avoir plus de voitures électriques ou plus de chauffe-eau électriques à remplacer par des chauffe-eau à gaz.
Qui vous vient en aide financièrement? Vous démarrez votre démarrage même de la start-up. Est-ce que vous avez des choses comme ça là? Est-ce que vous êtes allé voir le premier ministre Legault là, pour lui dire voilà, voilà nous. Vous attendez quoi?
On attend d'avoir un peu plus progressé. C'est-à-dire que là,
oui.
on est en train de fabriquer un banc d'essai.
Oui.
Une fois qu'on aura ce banc d'essai, on aura des belles mesures à montrer
oui.
au public. Et là, on pourra commencer à aller chercher des investisseurs.
Oui. Provincial comme fédéral.
Exactement.
Parce que ça, c'est quelque chose qui, quand moi, je... Non, j'étais tellement content que vous avez pu avoir le temps de nous parler de ça. Je me suis dit, non, il faut qu'on en parle, là. Non, sinon quoi, là? Non. Alors, par rapport à votre démarche, quels sont les développements à venir?
Donc là, banc d'essai pour cet été.
Oui.
Une fois qu'on a le banc d'essai, on a des mesures à montrer pour convaincre les investisseurs.
Oui.
On peut aller aussi faire une analyse de cycle de
pas
vie.
Pas les plaisantins qui vont nous écrire. Exactement. Et puis après ils vont désister. Là, il faut qu'il y ait des vraies personnes là qui ont, comme on le dit, de l'argent et qui des décideurs aussi, comme les politiciens et autres là, qui vont venir vous épauler pour aller de l'avant avec ce, parce que moi ce projet là il me fascine, cette non c'est je de salle de serveur à aller parler d'énergie, j'ai dit non, qui, moi j'ai jamais pensé à des choses comme ça, quoi.
Ouais, c'est intéressant.
Oui.
Et donc c'est ça, en fait, une fois qu'on aura fait notre analyse de cycle de vie,
oui,
donc ça c'est une étude qui est faite par des chercheurs,
oui,
et qui va nous aider à prouver que c'est plus intéressant d'avoir des serveurs dans notre solution que des serveurs dans des centres de données. Au niveau écologique, bien sûr.
Les serveurs ne seront plus dans les centres de données.
Exactement. Nous, on prend les serveurs.
Oui, expliquez d'une manière terre à terre.
On va reprendre.
Pour que l'auditeur qui vous écoute là dise « Ah bon, là je comprends, là je le suis. »
Exactement. Okay. Voilà. Donc en fait, nous, on prend les serveurs.
Oui.
On les met dans des boîtes, on appelle ça des chauffe-eau. Et en fait, ces chauffe-eau, on les place dans les spas, dans les piscines ou dans les bâtiments.
Oui.
Donc proche des consommateurs. Donc nous, on arrive à se passer des centres de données parce qu'on fait du calcul distribué, ce qui nous permet de rapprocher les sources de chaleur,
oui,
proches des consommateurs de chaleur. Parce que c'est beaucoup plus facile de déplacer des données que de déplacer de la chaleur.
Ah ouais, je comprends, ouais. Alors, je ne sais pas, mais... Alors, j'ai bien hâte de vous voir à des différentes entrevues dans les journaux, en train de décrocher des prix. Non, c'est vrai, ça, je vous le souhaite. Je vous dis bravo, vous et votre collègue Adrien Blond, d'ailleurs, ici. Et la première phase est terminée, vous étiez... Est-ce que quand vous allez au lit le soir, vous dites « Ah, notre projet, là, vraiment, il est bon. » Vous dites ça?
Oui. oui, c'est quand même c'est un bon projet, oui.
Oui.
Bien sûr, il y a des difficultés, là, c'est l'entrepreneuriat, tout ça.
Oui.
Mais on continue, etc.
Et je souhaite que d'autres collègues de camarades de Polytechnique viennent se joindre à vous pour que ça grossisse rapidement, ou bien d'autres personnes qui viennent de d'autres grandes écoles techniques aussi supérieures, d'ailleurs pas forcément de Polytechnique, pour que tout de suite ça prenne de l'ampleur. Et puis voilà. Alors, est-ce que vous avez
besoin de commerciaux aussi? On n'a pas besoin.
Il faut commercialiser.
C'est ça. Techniques.
Est-ce que vous avez cherché à, quand la deuxième vase va finir, là vous avez cherché à breveter ça, parce que il faut faire attention. Hein. Il y a des loups partout là.
Oui, exactement. Pour l'instant, on garde les choses pour nous. Parce
oui.
que le brevet, c'est bien, mais ça permet aussi aux autres de savoir comment on fait.
D'accord.
Donc, pour l'instant, on garde les choses pour nous.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on finit le banc d'essai cet été. Ensuite, on cherche des partenaires qui sont prêts à cofinancer des projets pilotes.
Oui.
Donc là, on a quelques pistes. On attendra que ça se confirme pour les annoncer.
Oui.
On a quelques pistes pour... aller chauffer des piscines ou des spas chez des partenaires qui sont prêts à faire des projets pilotes.
Mmh.
Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller chercher des investisseurs pour aller chercher des subventions.
Oui.
Et enfin, pouvoir accélérer un petit peu plus. Parce que voilà, il faut savoir que les subventions, en général, en fait, on peut subventionner à un maximum de 75% toutes nos dépenses.
Oui.
Donc il faut quand même
prendre
un petit peu de cash.
Je sais qu'il y a de l'argent qui vous entaille quelque part là-bas. Ça, c'est. Moi, j'aimerais bien que vous arriviez à convaincre tous les décideurs, les politiciens, que les chefs d'entreprise dans les grandes entreprises ont de grosses salles de serveurs là.
Ouais.
Et ça, c'est le marché là. Il est là. Et puis un dernier mot pour les gens qui nous écoutent. Pas un dernier mot. Ah, il y a quelque chose que j'ai découvert aussi que je voulais vous demander, si c'est vous, carnet du petit ingénieur.
Ah oui, c'est moi.
On va terminer sur ça.
Dans une autre vie.
Ah ouais. Le carnet du petit ingénieur Widow 2.0.
Oui, et puis pour Mindstorm aussi.
Il est auteur en même temps. Il écrit des livres. Parlez-moi un peu de ça.
Ouais, exactement. Donc en fait.
44 pages.
44 pages quand même. Hein.
Ouais.
Mais ça, c'est la version pour les élèves ou la version pour l'enseignant, je me rappelle.
La version pour les élèves. Là.
Ah d'accord.
Oh, ouais.
Donc en fait, c'est ça. J'ai animé des ateliers de robotique dans les classes.
Oui.
Notamment avec l'aide de Fusion Jeunesse.
Oui.
Et en fait.
Et vous êtes toujours actif là-bas?
Oui, côté robotique First Québec.
Voilà, d'accord. Ok.
Ouais, je travaille toujours sur des projets avec eux.
Oui.
Pour continuer à développer la formation.
Allez-y, parlez-moi un peu de ce carnet du petit ingénieur.
Carnet du petit ingénieur. En fait, c'est pour aider les élèves à faire de la robotique en autonomie. Ok. Donc, ça, on utilise les robots Lego WeDo 2.0.
Oui.
Et en fait, il y a des activités. Ils vont chercher les instructions de montage sur Internet, etc. Et ça leur permet de comprendre, en fait, les mouvements mécaniques de base. Mm-hmm. Parce que, donc, moi, j'ai une formation d'ingénierie de mécanique.
Oui.
Et donc, ça leur permet de comprendre les mouvements mécaniques de base en autonomie. Mais il y a quand même un livret pour l'enseignant pour démarrer les activités et puis quand même guider les jeunes. Voilà.
Ouais. Alors, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, même s'ils ont déjà une profession, qu'ils aimeraient changer de cap, ou bien la nouvelle génération des jeunes qui nous écoutent actuellement, qui vont dire « Ouh, c'est intéressant ce que Gaëtan Hugo raconte là, moi j'aimerais bien me lancer un peu de ce côté aéronautique et autres. » Comment l'amour pour l'aéronautique, est-ce que vous êtes originaire de Toulouse ?
Je suis originaire du sud-ouest de la France.
Du sud-ouest.
Ouais, entre Toulouse et Bordeaux.
Voilà. Je comprends. Je comprends l'amour aussi pour l'aéronautique. Là. J'avais reçu il y a quelques mois ici, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en aéronautique, Keita Systems, pour la troisième boîte noire des avions.
Ça ne me dit rien.
Voilà, là, basée à Nancy.
D'accord.
Oh, dans mon même bureau ici, ces deux sœurs franco-maliennes ou bien guinéennes, ils ont un bureau ici à Québec aussi. Les avions ont une troisième boîte noire maintenant. Vraiment de couleur noire, pas comme les deux premières.
Ah oui, qui sont rouges.
Oh, donc, ils sont orange.
Ah oui,
les deux
orange,
premières boîtes noires sont
orange.
Celle-là, elle est vraiment noire.
Pour mieux les retrouver quand même.
Voilà. Un dernier mot là pour ceux, les jeunes gens qui nous écoutent là. Qu'est-ce que, s'ils veulent prendre sur vos pas pour se retrouver en Polytechnique ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous leur dites?
Oui, bah, écoutez, c'est dur. Il ne faut pas lâcher, mais surtout, il faut savoir pourquoi vous voulez faire ça.
Oui.
Il faut savoir, si vous voulez faire une école d'ingénieur comme Polytechnique, il faut savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire ingénieur.
Oui.
Il ne faut pas y aller comme ça en se disant, c'est bien d'être ingénieur, il faut avoir un but derrière.
Oui.
Une fois que vous savez pourquoi vous voulez faire ça, ça sera beaucoup plus facile de traverser les moments difficiles.
Merci beaucoup, Gaëtan Hugo. Quand la deuxième phase sera finie, là, revenez nous voir.
J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes. On vous donnera des nouvelles.
Voilà, qui vous avez pu convaincre pour venir vous supporter encore, pour que vous n'ayez pas à courir encore financièrement. Parce que c'est un projet pour moi, je me dis, waouh, beaucoup d'entreprises vont profiter.
Et puis, on espère.
Oui.
Et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui écoutent, nous, on cherche toujours des partenaires qui sont prêts à cofinancer des projets pilotes.
Oui.
Pour pouvoir plus tard commercialiser.
Alors, s'il y a des Samaritains qui nous écoutent, qui ont les moyens financiers de le faire, n'hésitez pas. C'est
Splitum Énergie.
Énergie.
Donc,
voilà.
On va retrouver sur.
C'est ça, Splitum, S-P-L-I-T-O-M, Énergie comme énergie.
Exactement.
Il n'y a pas mille manières. On ne peut pas vous tromper sur Google.
Exactement. Vous nous trouvez sur Google, il n'y a pas de souci.
Voilà. Merci beaucoup, Gaëtan.
Merci à vous,
Hugo,
de nous avoir aussi.
Et puis, au plaisir de vous réentendre ici pour parler de la progression de ce beau projet. Merci et bravo. Félicitations.
Merci beaucoup.
Un bonjour à votre. Complice.
Le bonjour à Adrien, et Régis qui a rejoint l'équipe.
Et Régis qui a rejoint l'équipe, le commercial.
Exactement. Looking out across the night time. City winks a sleepless eye. Hear her voice shake my window. Sweet seducing sighs get me out into the nighttime. For walls won't hold me tonight. And if this town just an apple, will you take a bite? And if they say why, tell them that it's human nature. Why, hey, does it do me that way? Oh, I tell you why, tell them that it's human nature. Why, hey, does it do me that way? Reaching out to a stranger, electric eyes are everywhere. And
cause I'm watching. She likes the way I stare. And if they say why, just tell them that it's human nature. Why does it do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why, you know, if you do me that way. I love living this way. I love living this way. The morning, the city heart begins to beat. Reaching out, I touch your shoulder, dreaming of the street. And if they say why, tell them that it's human nature. Why, it doesn't do me that way. Oh, why? Do me this way. Why? Tell them that it's human nature. Why? Does it do me that way? They say why? Tell them that it's human nature. Why? Enough it do me that way.
Oui, c'était voilà, c'est ouais, Tarus Rally, Human Nature. Voilà, on va parler un peu de CO2, le niveau de CO2 dans l'air, ouais, 50% plus élevé qu'avant l'ère industrielle. Ouais, ça c'est Science Avenir AFP qui nous donne cette information là d'ailleurs. Et donc la concentration de CO2 dans l'atmosphère atteint le mois passé là, un niveau de 50% plus élevé que durant l'ère pré-industrielle. Et jamais vu sur Terre depuis environ 4 millions d'années, a alerté le vendredi cette agence américaine. Le trafic routier est l'une des sources de pollution contribuant au réchauffement. Mais ça, c'est clair. Quand tu vas sur l'autoroute, que ce soit métropolitaine, n'importe quelle autoroute ici, les voitures qui circulent, même en ville, quelquefois, et c'est ce qui fait qu'il y a des quartiers qui ont pris la décision de mettre des autoroutes cyclistes. Des autoroutes cyclables, de pistes cyclables, un peu partout, là, dans Rosemont-Petit-Patrie surtout. Voilà, le trafic routier, l'une des sources de pollution contribuant au réchauffement climatique, c'est clair. Donc le réchauffement climatique qui est causé par nous, les humains, j'en fais partie, hein, je ne me mets pas à l'écart, notamment via la production d'électricité à l'aide d'énergie, c'est de ça qu'on vient de parler avec mon invité, effectivement. Et leurs compagnies, les petites compagnies qui vont grandir, vont permettre de lutter contre ça aussi. Les transports, la production de ciment ou encore la déforestation. Voilà. Et le responsable clair de ce nouveau plus haut a souligné l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA. Ça fait peur quand même. Donc, et moi, Et c'est que je ne comprends pas. Il y a les réunions tout le temps. Le G7 par-ci, G20 par-là. Là, dernièrement, à Stockholm, le sommet de la Terre. Il y a eu, dans le courant du mois de mai aussi, à Abidjan, Côte d'Ivoire, le sommet de la désertification. Il y a bientôt là quelque chose qui va venir en Égypte. Et depuis la COP, je ne sais pas combien, COP 25 ou bien 15 ou bien 32, là, je ne sais quoi, à Paris, il y a des pays même qui se sont retirés, qui n'ont même pas signé la convention. Oui, parce que c'est des grands pollueurs. Tu ne peux pas signer si tu es un grand pollueur. La Chine et autres, là, voilà. Carrément, on a eu l'ancien président américain qui s'est retiré complètement de ce traité de Paris. Ouais. Donc, le mois de mai est généralement celui qui enregistre un taux de dioxyde de carbone le plus élevé chaque année. En mai 2022, la barre des 420 parties par million, c'est-à-dire PPM, unité de mesure utilisée pour quantifier la pollution dans l'air, voilà, a été franchie. En mai 2021, ce taux était de 419 PPM, c'est voilà, PPM parties par million, voilà, et en 2020, de 417. Oui, en 2022, on est à 420, effectivement. Et c'est toujours dans le courant du mois de mai. Ouais. Ces mesures sont effectuées à l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï, idéalement situé en hauteur sur un volcan, lui permettant de ne pas être influencé par une pollution locale. Merci à toi Nicolas, on se retrouve demain. Et je dis merci à notre invité Gaëtan Hugo, cofondateur de Split Home Energy. Voilà, ça c'est quelque chose, hein, et il faut le faire. Et je dis merci à nos fidèles auditeurs. Comment valoriser la chaleur perdue pour les serveurs informatiques? C'est bien dit. Voilà. Restez à l'écoute. Non, c'est fini. Restez pas à l'écoute. Oui, l'émission continue. Les émissions continuent sur Canal M. Mais pas à l'écoute de Scal 17-18. On se retrouve demain. Prenez soin de vos minutes. Voilà. Et je vous dis ciao.